dans une famille, les gens se fâchaient pour des petites opinions de rien du tout, des petites différences de point de vue, enfin des chameries, quoi. Non, franchement, ça fait de la peine.
Quand j'entends parler le petit facteur, ça me fait penser à une phrase de Bertolt Brecht. Nos défaites d'aujourd'hui ne prouvent rien, si ce n'est que nous sommes trop peu dans la lutte contre l'infamie. Et de ceux qui nous regardent en spectateurs, nous attendons qu'au moins ils aient honte.
Bonjour, pour signaler aux auditeurs de La Basse J'y suis, une initiative intéressante de syndicalistes unitaires contre le fascisme, les idées d'extrême droite. Le 29 janvier 2014, donc c'est le lancement de la campagne unitaire contre l'extrême droite, ses idées, ses pratiques. Toute la journée avec donc des débats à la Bourse du Travail de Paris, métro République. Et le soir, à partir de 19h30, un meeting dans les locaux de la CGT à Montreuil. Donc c'est une initiative organisée par la CGT, la FSU, Solidaire et également des organisations de jeunesse. Voilà, en espérant vous y retrouver nombreux et nombreuses, et vous pourrez suivre en direct sur les sites la retransmission du meeting. Merci, à bientôt.
Il y a quelques années, je prends ma carte dans un grand parti de gauche dont le nom commence par P et finit par S. À ma grande surprise, j'en étonnais plus d'un dans ma section en leur dévoilant qu'il y avait encore 20% d'ouvriers en France et que plus de 90% des personnes en activité étaient des salariés. Et quand je suggérais que le parti de Jaurès devait en toute logique consacrer toute son énergie à la défense des salariés, on me fit gentiment savoir que la défense des salariés, c'était l'affaire des syndicats et que nous nous adressions à toute la population. Et c'est ainsi qu'au municipal de 2008, le baron local qui dirigeait la fédération nous imposa comme tête de liste un chirurgien libéral de droite, tendance Pasqua, en guise d'ouverture politique. Et ce dernier fut élu sous les couleurs socialistes.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Si c'était vrai, ça se saurait. Vous connaissez cette phrase-là. Tous ceux qui luttent contre un tabou, qui se battent pour un bout de vérité dans leur coin, qui essayent de faire émerger quelque chose, de faire apparaître à la conscience collective quelque chose qui leur tient à cœur, une vérité, une chose oubliée, méprisée, se heurtent à cette phrase. Oh bah oui, mais si c'était vrai, ça se saurait. Beaucoup d'exemples de ça hein, dans l'histoire, dans nos mémoires, je pense. Évidemment, au 17 octobre 1961, longtemps, on nous disait « Ah oui, mais si c'était vrai, ça se saurait ». Il a fallu attendre une trentaine d'années pour que la mémoire émerge et peu à peu, parmi les obstacles, la vérité se ferait un chemin. Chez nos voisins espagnols, c'est une histoire invraisemblable qui s'est produite pendant, c'est pas 30 ans là, c'est 70 ans. Il a fallu 70 ans pour que l'Espagne, les Espagnols, osent regarder une monstruosité en face. Cette monstruosité, c'est le vol des enfants. Vous avez sans doute déjà entendu un peu parler de cette histoire. On estime qu'entre 1940 et 1990, 300 000 enfants auraient été volés à la naissance en Espagne. D'abord pour des raisons idéologiques, on va en parler, idéologiques, c'est-à-dire l'idéologie de Franco et d'un de ses conseillers, un savant, un psychiatre, qui voulait lutter contre le gène rouge, c'est-à-dire un gène qui serait nocif et qu'il faudrait éradiquer, qui serait commun à tous ceux que ces gens-là appelaient les rouges, c'est-à-dire les républicains. Et puis, peu à peu, ce vol d'enfants est devenu un business. Jusqu'à ce qu'on découvre la vérité. Alors, il a fallu attendre ces 2-3 dernières années, pas davantage, pour que la vérité, enfin, explose. Et saute à la tête, au cœur de l'Espagne, ce si long silence par rapport à quelque chose d'aussi énorme que le vol d'enfants est quelque chose d'aussi essentiel. Il n'y a rien de plus important dans nos vies et celles de nos compagnes que mettre au monde un être humain. Eh bien, 300 000 fois, ces bébés ont été volés à leur mère à la naissance. Ce qui est stupéfiant, c'est que nous ne le sachions pas davantage ici, en France. ce qui leur arrive, ce qui arrive à nos voisins espagnols qui sont en proie à cette histoire. Et c'est notre sujet du jour, enfant volé d'Espagne. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Cher là-bas, si j'y suis, tu as moqué le fait que dans les manifestations des bonnets rouges à Quimper et à Carhaix, on trouvait côte à côte des travailleurs et des chefs d'entreprise. Mais des mélanges étonnants, il y en a aussi en face. Parmi les gens qui condamnent les bonnets rouges, on trouve côte à côte le Front National, le Front de Gauche, l'UMP, le PS, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Daniel Mermet. C'est précisément ce regroupement contre nature mais à la vérité bien réel que les Bretons appellent les Jacobins. Salut!
Fais de la politique, mon gars, fais de la politique, fais de la politique, mon gars, fais de la politique. C'est juste pour vous continuer à vous parler de notre liste, là, pour tous les grincheux qui disent « Ouais, les jeunes ceci, les jeunes cela ». Nous, sur notre liste, il y a un tiers de la liste, indépendamment du fait qu'il y a la parité sur notre liste et qu'il nous manque des mecs pour la finir, mais il y a un tiers de jeunes de moins de 25 ans. Allez, fais de la politique, mon gars, fais de la politique, fais de la politique, mon gars, fais de la politique. Ciao, viva, porte ouverte.
Le pèlerinage de Madame Valérie Treyer-Weller nous permet de nous rappeler qu'il meurt donc toutes les 30 secondes un enfant indien et qui meurt de malnutrition. C'est voilà, c'est bien de se rappeler de ça. Au revoir.
Lettre morte. Qui a tué la lettre? On l'a retrouvée morte. Le vieux facteur peut-être qu'on a mis à la porte. Salut.
Nos ocupamos de todo.
Nous nous occupons de tout.
Era la frase que se empleaba sistemáticamente. Nos ocupamos de todo.
C'était la phrase qui était utilisée systématiquement dans ces
Cuando
cas-là.
Cuando se decía a la madre que su niño había muerto.
Quand on disait à une mère que son enfant était mort.
La madre decía quiero ver a mi hijo para enterrarle yo.
Et la femme disait je veux voir mon enfant pour l'enterrer moi-même.
Systématicamente.
Systématiquement.
Se le decía siempre. Nos ocupamos de todo.
On lui disait nous nous occupons de tout.
Pues eso, pues a las presas políticas
que
estaban embarazadas, pues claro,
les
quitaban a los bebés.
On leur enlevait les enfants.
Y ellos querían hacerlo, ¿sabes? Que, o sea, que este país, por así decir, fuera pues exclusivamente de derechas.
Et ils voulaient que ce pays soit exclusivement de droite, de leur idéologie. Acquis à leur idéologie.
Pour Franco, c'est le temps du triomphe. Mussolini télégraphie.
Je vous remercie d'avoir consenti aux troupes légionnaires le haut honneur de défiler devant vous dans Madrid reconquise pour l'Espagne une, libre et grande, que vous êtes en train de construire.
Les troupes franquistes ferment la dernière frontière. Les vaincus ne pourront plus choisir l'exil.
Porque si mis cálculos no funcionan mal, aquí hay 300.000 familias afectadas.
Parce que si mes calculs sont bons, moi j'estime qu'il y a 300 000 familles qui sont affectées par ce drame.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao. Les enfants volés d'Espagne.
Flight number 2, arriving from...
Alors là, il y a tout un attroupement de presse parce qu'en fait, il y a la mère de Maria Luisa qui vient d'arriver et une autre de ses filles. Et Maria Luisa est en train d'être interviewée un peu plus loin, on ne sait pas exactement où, avec sa fille justement retrouvée.
C'est un feuilleton qui passionne tout le pays. Il y a une quarantaine de caméras qui sont braquées sur cette femme.
Ben voilà, Maria Luisa vient d'arriver et elle se fait un passage au milieu de l'arène médiatique et elle va faire un petit speech avant donc l'audience qui doit avoir lieu.
Cette passion hein, pour cette histoire.
Ça fait beaucoup d'années qu'on attendait ce moment et il est enfin arrivé. La justice avance lentement, mais j'espère qu'à partir de maintenant, elle va faire des pas de géant. Nous ne sommes pas un cas isolé. Nous sommes des milliers à être affectés. Et s'il vous plaît, c'est l'heure de commencer à enquêter.
Et tout ça, c'est Sœur Maria.
C'est Sœur Maria Gomez Balbuena qui, en l'espace de quelques minutes, m'a dit que ma fille était morte. Après qu'elle allait la donner en adoption à une famille française. Et plus tard, elle m'a dit avec beaucoup de cruauté, je vais te la prendre parce que celle-là, tu ne la connais pas. Tu en as une autre de 2 ans et demi que je vais te retirer aussi. Et en plus, tu iras en prison pour adultère.
Cuando la boca está cerrada, mosca no entra. C'est un proverbe espagnol qui, à lui tout seul, dit ce long silence, ce très très long silence qui a duré pendant les 36 années de la dictature et qui dure toujours depuis. Quand la bouche est fermée, les mouches n'y entrent pas. La loi du silence. On a intérêt à se taire, on a intérêt à la fermer. Et qui dit ça? Qui sont ces fermeurs de bec, les cloueurs de bec? Eh bien, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui ont pris le pouvoir sur la République espagnole. C'est ceux qui ont fait vivre à l'Espagne cet enfer et ce calvaire qui fut la dictature, mais qui ensuite, sous le masque de l'amnistie, ont voulu l'amnésie, sous le masque de la démocratie, mais qui ont imposé, qui ont réussi à mettre en place une dictature rampante, en tous les cas celle du silence. Celle du silence sur cette monstruosité, qui est celle de ces enfants volés à la naissance, à partir de 1939, pour des raisons idéologiques. Il fallait, disait le bon docteur Antonio Valero Nagueira, que les enfants soient débarrassés de ce gène qu'est le marxisme. Il voyait dans le marxisme une maladie mentale dont il fallait guérir et ses enfants et l'Espagne tout entière, en confiant les enfants dès leur naissance à des bonnes familles catholiques et franquistes. Et puis, il a fallu mettre en place un tel système, une telle complicité du médecin, de la sage-femme, de l'infirmière, des religieuses qui, à l'époque, régnait sur le monde hospitalier, comme dans d'autres parties du monde, la France par exemple. Il fallait ensuite la complicité des fonctionnaires, etc., pour que l'enfant soustrait à sa mère arrive jusqu'à ses familles qui militaient pour un Espagnol nouveau. Peu à peu, on s'est aperçu que c'était rentable aussi de fournir des enfants à ceux qui n'en avaient pas. Alors c'est devenu un commerce, c'est devenu mafieux, tout simplement. Et ça a continué, ça a continué. Alors, bien sûr que on le savait, mais il y avait cette bouche qu'il fallait garder close pour pas que les mouches y entrent. Il fallait se taire. Il y avait un bruit de fond, nous dit-on. En tout cas, aujourd'hui, ça explose et c'est devenu une conversation permanente, évidemment. On se dit, mais alors, est-ce que ma mère est vraiment ma mère? Tout le monde se pose cette question. Tous les gens d'un certain âge se posent cette question. Et puis, il y a toutes ces femmes qui ont fait des fausses couches et qui se disent, mais... et qui ont, peu à peu, bon an, mal an, fait le deuil de ce drame, et qui leur est arrivé, et qui se disent, mais si ça se trouve, mais enfin, mon enfant m'a peut-être été dérobé à la naissance, et c'était autant de douleurs qui, alors, se réveillent. Vous avez compris, on est dans l'essentiel, on est dans le crucial, on est dans l'origine de chacun, l'identité de chacun, et l'identité d'un pays si proche, l'Espagne, que quelque chose de là nous regarde dans les yeux et nous incite à ouvrir la bouche, même si les mouches devaient y rentrer. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, les enfants volés d'Espagne.
tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad.
Alejandro buscaba la madre biológica
Alexandre
de su hija Pilar,
la mère biologique de sa fille Pilar
podía
et soupçonnait
de un caso de niña robada. Por
volé.
Todas las coincidencias, toda la verdad.
Seguimos en directo en El Diario, en Antena 3.
Continuons en direct dans El Diario sur Antena 3. Cet après-midi, nous avons sur le plateau María del Pilar avec son père adoptif Alejandro. Ça fait 15 ans qu'il cherche la famille biologique de María del Pilar. Alejandro soupçonne d'avoir été trompé lui-même et que sa fille est victime de cette affaire, affaire supposée, de vente et d'achat d'enfants. Aujourd'hui, l'émission El Diario et l'ADN nous dévoilent la vérité. Selon les examens génétiques réalisés, on peut conclure que Pilar, je vous demande de regarder par ici.
Si, ça va!
Oui, elle se mère et fille!
Voilà. 30 juin 2011, une effusion formidable sur la télévision espagnole, Antena 13, dans cette émission El Diario, où María Luisa, la maman, retrouve sa fille Pilar avec le certificat, la certitude de l'ADN. Cette scène, tous les Espagnols la connaissent, l'ont vue et revue, et ces images ont secoué ce pays qui savait ça, ça ne sortait pas. Et là, ça a été l'occasion de, sur ces 300 000 cas, je sais bien que ce chiffre est invraisemblable, mais c'est pourtant bien celui qui est avancé la plupart du temps, depuis qu'on a pris conscience et qu'on essaye de faire quelque chose. Des associations nombreuses se sont constituées pour essayer de se retrouver, mère et fille et fils et ses enfants et ses parents séparés. C'est une émotion considérable, mais il n'y a que 14 cas de retrouvailles pour l'instant. Et surtout, la grande question, c'est la question de la justice. Que fait la justice en Espagne? Eh bien, ce jour-là, avec Antoine, on était devant ce tribunal, le tribunal de la Plaza Catalunya, à Madrid, où María Luisa, la mère, et Pilar, la fille, venaient déposer une plainte contre María Gómez Balbuena, 84 ans, une religieuse qu'elle met en cause dans ce trafic d'enfants. La justice est en route en Espagne.
Est-ce que vous pouvez nous dire où en sont les poursuites dans cette affaire?
Bueno, este caso en concreto está en fase de instrucción.
Donc ce cas concrètement est en phase d'instruction. Ouais.
Este sería el caso que más avanzado está.
Ça, ce serait le cas qui a le plus avancé judiciairement.
Es la primera, el primero que ha llegado a esta fase.
C'est le premier qui arrive à ce niveau-là.
Pourquoi si tard? Pourquoi seulement maintenant?
Bueno, vamos a ver. Cuando a un padre le decían, o a una madre, le decían que su hijo había muerto.
Quand on disait à un parent que son enfant était mort.
Y lo firma un funcionario, un jefe del servicio médico.
Et qu'un fonctionnaire, un chef de service médical signait cette déclaration.
Nadie va al registro civil a comprobar si es verdad lo que me ha dicho el médico.
Personne n'allait vérifier au registre civil si c'était la vérité.
Porque normalmente uno confía en el médico.
Parce que normalement quelqu'un fait confiance dans la médecine, dans les médecins.
Pero cuando salta a la luz uno o varios casos en que eso no es cierto,
mais quand on apprend qu'il y a eu plusieurs cas où c'était faux,
todas las personas a las que se les ha muerto un hijo van a pedir esa documentación porque ya empiezan a sospechar.
Toutes les personnes qui ont été dans ce cas de figure commencent à avoir des soupçons et vont demander ce certificat et vont vérifier.
Quand on dit qu'il y a 300 000 cas, est-ce que vous pensez que c'est crédible?
No son 300 000 casos, son 300 000 sospechas.
Non, c'est pas 300 000 cas, mais ce sont 300 000 doutes. Personne qui doute.
Claro, porque un bébé muerto.
Un bébé mort,
si no está enterrado,
si n'est pas enterré,
ahí hay algo raro.
No,
es una sospecha. No sabemos exactamente por qué no está enterrado.
Pourquoi il n'est pas enterré.
Entonces, puede ser que sea un caso de bebé robado o puede que no lo sea.
Ça peut être un cas de bébé volé ou ça peut ne pas l'être.
Un simple error administrativo.
Ça peut être une erreur administrative.
Hein? Pas 300 000 cas, mais 300 000 doutes.
300 000 soupçons.
Oui, 300 000 soupçons.
Y si 300 000 sospechas en total.
Oui, 300 000 soupçons, effectivement.
En 50 años.
En 50 ans.
On est avec Guillermo Pena Salsamende, qui est l'avocat de Maria Luisa, l'avocat de la maman qui a retrouvé sa fille et qui donc, ce jour-là, est venu porter plainte au tribunal. Et devant le tribunal, il y a toutes les familles, parents, enfants qui sont là, qui sont venus la soutenir, qui sont venus l'embrasser et qui, eux-mêmes, sont porteurs de cette question et de cette quête à la fois émouvante et terrible.
Donc là, il y a une femme qui a « Busco a mi hija, je cherche ma fille, Maria Pilar Martín ». Alors elle a un petit panneau autour d'une petite pancarte « SOS Bebés Robados Madrid ». Voilà. Elle est née en 62.
62.
Saber la verdad.
Que moi, pasó. Je voudrais savoir la vérité. Au moins, qu'est-ce qui s'est passé?
Saber la verdad.
Savoir la vérité.
Ce qui est terrible dans cette histoire qui a explosé il y a 2 ans, des milliers Salena. De personnes se sont mis en quête de leurs enfants, mais aussi tous les parents, toutes les mamans qui ont eu des enfants mort-nés, normalement, et qui ont fini par faire le deuil, c'est un deuil très difficile évidemment à faire, tout d'un coup ont été interpellés, réveillés par cette histoire, et se sont mis à douter et à espérer que l'enfant perdu, l'enfant mort, était peut-être vivant quelque part. Quoi. Ça c'est terrible, c'est une souffrance terrible.
Et parallèlement, il y a plein de gens qui sont en quête de leur identité.
Ouais, il y a aussi les enfants nés à cette époque qui sont en quête de leurs vrais parents. On va parler avec ce monsieur. Vous êtes, vous portez autour de devant vous, comme ça, si. un panneau qui dit « Bébés robados,
robados. »«
Enfants volés. »«
Enlevés. »«
Enfants enlevés, dérobés.
Dérobé. »
Qu'est-ce qui est arrivé?
Parce que c'est le premier bébé que ma femme elle avait.
Le bébé. Vous êtes très ému.
C'est pas possible d'éviter ça. Je suis très sensible. Chaque fois que je pense à ça, je me plonge beaucoup.
Hola, soy Juani.
Moi, je suis Juani.
Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui?
Pues nada, vengo a acompañar a María Luisa.
Moi, je viens accompagner María Luisa.
Porque se supone que una monja le quitó a su niña.
Parce qu'on suppose qu'une bonne sœur lui a pris son enfant.
De la noche a la mañana le dice que había fallecido.
Du jour au lendemain, on lui a dit que son enfant était mort.
Y luego le dice que la niña ya estaba dada en adopción y que no la reclamara.
Et après, la bonne sœur lui a dit qu'en fait son enfant avait été adopté, que c'était pas la peine qu'elle essaye de le réclamer.
La monja le dijo que era una adúltera porque era madre soltera y tenía otra niña y la amenazó con quitarle la segunda niña.
Et la bonne sœur lui a dit que de toute manière c'était un adultère parce qu'elle était célibataire et que si elle faisait des problèmes, on lui retirerait son deuxième enfant.
En el 82.
Ça c'était en 82.
En el hospital Santa Cristina.
Dans l'hôpital Santa Cristina, oui.
Alors, vous avez une histoire aussi, vous cherchez votre frère.
Yo estoy buscando a mi hermano del año 63, también de Santa Cristina.
Moi aussi, je cherche mon frère qui a disparu en 63 dans le même hôpital, à Santa Cristina.
Mi madre tuvo un niño y según siempre nos dijeron que el niño había fallecido.
Ma mère a eu un enfant, un fils, et on nous a tout de suite dit qu'il était mort.
Y toda la familia siempre pensó que estaba enterrado, que había fallecido.
Et nous, on a toujours pensé, sí, toute la famille a, sí, pensé qu'il était mort, sí, qu'il avait été enterré.
Y entonces, bueno, pues mi madre echaba como en cara de que mi familia no había ido al enterrillo de su niño, ¿no?
Alors ma mère était toujours très triste que nous ne soyons pas allés, que la famille ne soit, sí, pas allée à l'enterrement de l'enfant.
Y ella siempre tenía ahí la duda de dónde estaba su niño.
Et donc elle a toujours douté de savoir où était son enfant.
Bueno, pues ya a raíz de salir toda esta historia de los medios y de los niños robados.
Et quand toute cette histoire des enfants volés est sortie dans la presse,
pues yo empecé a investigar,
j'ai commencé à faire des recherches.
Yo quería saber si mi hermano realmente había fallecido.
Donc je voulais savoir s'il était vraiment mort, s'il était, sí, vraiment décédé.
À partir de quand vous vous êtes intéressé à ça?
Pues yo llevo como dos años así intentando investigar.
Moi, ça fait deux ans maintenant que je cherche.
Yo esto no lo creía ni, vamos, ni por la remota idea. Lo que pasa que yo estaba...
Moi, j'avais pas la moindre idée que c'était, sí, possible, tout ça.
Yo estaba ayudando a mi amiga Marisol, desde, porque ella le quitaron dos gemelos en el año 89.
Moi, j'étais en train d'aider ma copine Marisol, parce qu'à, sí, elle, on lui a enlevé deux jumeaux en 89.
Yo llevaba ya dos o tres años ayudándola a buscar abogados, denunciando...
Ça faisait deux, trois, sí, ans que je l'aidais, sí, on cherchait des avocats, sí, on dénonçait la situation.
Entonces ya esto, antes de que saliera esto, nosotros ya llevábamos dos o tres años investigando el fallecimiento de mi amiga.
Avant même, sí, que ça sorte dans la presse grand public, nous, ça faisait déjà deux ans qu'on, sí, qu'on travaillait sur ce thème avec Marisol.
Y ya al empezar todo esto de Santa Cristina, de la monja y tal, pues claro, ya mi familia, mi tía, empezó a decirme, oye, Juan, y que yo no sé, que aquello de tu hermano fue todo tabú, y ahí a raíz empezamos a investigar.
Et quand l'histoire de la clinique Santa Cristina est sortie, alors là, toute ma famille s'est dit, mais dis donc, ces doutes qu'on a sur ton frère et tout ça, il faut aussi qu'on fasse des recherches.
Yo solo único quiero saber que me digan qué es lo que pasó.
Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé.
Yo no sé si está fallecido, si está vivo.
Je ne sais pas s'il est mort, s'il est vivant.
Sí, yo no tengo ni idea. Yo lo que quiero saber... que los curas, l'arzobispado, nos den la documentación que la tienen ellos, los libros de adopciones, porque ellos lo hacían todo eso.
Entonces, yo quiero saber
la verdad.
Moi,
la verdad que pasó con mi hermano.
La vérité, qu'est-ce qui s'est passé avec mon frère?
No hay dinero en el mundo para pagar el daño que han hecho a tantas familias.
No hay nada en el mundo. Soigner tout le mal que ces gens ont fait aux familles.
Nadie tiene derecho a quitar un hijo a una madre. Nadie.
Personne n'a le droit d'enlever un enfant à une mère. Personne.
Alors, nadie.
Ni un cura.
La responsabilité pour vous, c'est l'Église.
En mi caso, sí.
Dans mon cas personnel, oui.
En mi caso, lo hizo una monja y un
cura. C'est une bonne sœur.
Un cura.
Et un curé.
Sí, 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 sí.
Et la grande majorité, oui.
Esto, toda la Iglesia, vamos a ver, yo no pongo en duda la Iglesia, pero detrás de esa monja y ese cura tiene que haber gente más alta y más responsable.
Moi, je ne mets pas en cause toute l'Église, mais derrière ce curé et cette bonne sœur, il doit y avoir des responsables qui soient plus placés dans l'Église. Ils ne pouvaient pas faire ça tout seul.
Más arriba que estos dos.
Y a quelqu'un au-dessus de ces deux-là.
Yo no sé si sería económico, si sería por caridad, yo no tengo ni idea.
Si économique ou si c'était de la charité.
Porque mi madre estaba casada, era su primer hijo.
Parce que ma mère était mariée, c'était son premier enfant.
Juan Elias.
Il s'appelait Juan Elias.
Ella tuvo a su niño, le dijeron que falleció.
Elle a eu cet enfant, on lui a dit qu'il était décédé.
Y bueno, y luego de hecho a mi hermano lo enterraron de que éramos pobres, que no teníamos dinero.
Et comme nous, on n'avait pas d'argent, on était pauvres, ils ont dit qu'ils allaient s'occuper de l'enterrement.
Mi padre en aquellos años trabajaba en Pegaso Iveco, que es una empresa muy importante.
Mon père travaillait dans une grande entreprise de Pegaso, de construction automobile. Camions.
Et les gens qui ont adopté, qui sont les gens qui adoptaient?
Pues alguien muy poderosa, alguien por encima de que no podrían tener hijos y querían un hijo a tu costa.
Des gens
qui avaient
les moyens, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui voulaient avoir coûte que coûte des enfants.
Estoy convencida que alguien que necesitara un hijo, yo qué sé, es que no lo entiendo.
Est-ce que vous êtes d'une famille républicaine, des gens de gauche?
Empezó a raíz de ahí.
Ça a commencé à ce moment-là, oui.
Alors si je comprends bien, ça a commencé après la guerre civile Et là, ça a d'abord été quelque chose d'idéologique. Il s'agissait de refaire une race de bons Espagnols, hein, en modifiant les enfants. Ça, ça a été d'abord ça, et ensuite c'est devenu un business.
Exactement, à las políticas,
et aux prisonnières
que
politiques qui étaient enceintes,
a los bebés,
on leur enlevait les enfants.
Et ils querían hacer que este país, por así decir, fuera pues exclusivamente de derechas.
Et ils voulaient que ce pays soit exclusivement de droite, de leur idéologie. À qui? À leur idéologie.
Qui est-ce qui a découvert ça? C'est le juge Garzón qui a découvert toute cette histoire.
Elle hizo lo de la memoria histórica, lo que parte.
Lo que pasa, lui, il a travaillé sur la mémoire historique.
Lo que pasa que él agregó también lo de los niños robados.
Donc il a ajouté cette histoire des enfants volés à tout le travail qu'il a fait sur la mémoire historique de la guerre civile.
14 mai 2010, Baltasar Garzón, le juge le plus connu d'Espagne, l'homme qui a fait arrêter Pinochet, vient d'être officiellement suspendu de ses fonctions.
France 24, 14 juillet 2010.
Moment d'émotion, tout le personnel de l'Audience nationale est là. Après 2 mois de procédure, l'Espagne est sous le choc. Son juge vedette vient de tomber pour avoir osé enquêter sur les crimes du franquisme. Dans la rue, ils sont des centaines à manifester. Dans la foule, Marina Redondo, 28 ans. Son arrière-grand-père a été fusillé sans procès par les milices franquistes.
Garzón, c'est le seul homme qui a pris le parti des victimes. Et elles sont nombreuses. Et vous voyez le résultat.
1936, les élections générales. Le Front populaire l'emporte avec 4 millions de voix contre 3 millions et demi à la droite. Il obtient la majorité absolue au Parlement espagnol, les Cortés.
Mourir à Madrid.
La personne sacrée de l'Espagne est en danger.
Un film de Frédéric Rossi.
Madrid, juillet 1936. Les garnisons du Maroc se sont soulevées contre la République. Francisco Franco déclare à la radio de Tétouan.
Vous tous, qui ressentez le saint amour de l'Espagne. Vous tous, la nation vous appelle à sa défense. L'armée a décidé de rétablir l'ordre en Espagne.
L'archiprêtre de Burgos dit pendant la grand-messe, « Ô vous qui m'écoutez, vous qui vous donnez le nom de chrétien, pas de pardon pour les destructeurs des églises et les assassins des saints prêtres, que leur semence soit écrasée, la mauvaise semence, la semence du démon, car en vérité, les fils de Belzébuth sont aussi les ennemis de Dieu. »
Francisco González de Tena.
Donc je m'appelle Francisco González de Tena.
Soy doctor en sociología.
Je suis docteur en sociologie.
Y en filología.
Et en philologie.
On voudrait savoir quand est-ce que cette histoire a commencé. Parce qu'on nous dit, ça a commencé dans les années 40 et 50, il y a eu environ 30 000 histoires de bébés volés. Mais ce sont des histoires liées au franquisme. Il y avait là, derrière ça, une volonté idéologique Et c'était l'illustration, la mise en pratique d'un psychiatre proche du général Franco et qui s'appelait...
Vallejo Nájera.
Voilà, Antonio Valero Nájera. Antonio Valero Nájera, qui était un psychiatre militaire et qui qu'on peut inscrire dans la longue liste des scientifiques, des en l'occurrence psychiatres, qui ont mis leur savoir, leur prestige et leur autorité au service de la pire des tyrannies, en contribuant à élaborer, à produire, à fabriquer une race pure d'Espagnol, un homme nouveau. Le mythe de l'homme nouveau qui s'est développé à la fin du 19e siècle a connu un certain nombre de fortunes épouvantables au cours du 20e siècle. Les soviétiques voulaient faire un homme nouveau, les nazis voulaient faire un homme nouveau, et le mythe de l'homme nouveau, on le retrouve aussi sous la plume du Che et dans les discours de Che Guevara. Et c'est ainsi, on a pensé qu'il fallait purifier en somme pour arriver à l'homme idéal qui serait l'artisan, l'élément indispensable à la société idéale. Et ce psychiatre a été l'artisan de cette pratique et de ce qui a été au départ le vol des enfants. On est avec Francisco González de Tena, qui est un de ceux qui, chaque jour, se penche sur cette histoire et qui est passionné par cette histoire, pas seulement comme un phénomène, évidemment, qui intéresse un sociologue, le sociologue qu'il est, l'intellectuel qu'il est, mais comme une histoire qui concerne véritablement son pays et, comme je viens de le suggérer, bien au-delà de son pays.
Le principio de esta historia tenebrosa.
Donc le début de cette histoire ténébreuse,
hay una voluntad política de perpetuar una raza ideal.
Il y a une volonté politique de perpétuer une race idéale.
Porque Franco se inventa una raza nueva, los rojos.
Parce que Franco effectivement invente une race nouvelle qui est celle du rouge.
Para justificar la limpieza étnica.
Pour justifier le nettoyage ethnique.
Ahí digamos hay una voluntad de eliminar a todo aquel que sea o parezca rojo.
Donc il y a une volonté de faire disparaître tous ceux qui sont ou qui paraissent rouges.
De hecho, la palabra que emplean desde el principio es la limpieza. La palabra limpieza aparece desde el principio.
Le mot qui apparaît et depuis le début, c'est le mot nettoyage.
Para justificar esa limpieza a las personas hay que etiquetarlas. Es lo que decimos en sociología, etiquetar a una persona.
Et pour justifier ce nettoyage, il faut étiqueter les gens. C'est le mot qu'on utilise en sociologie.
Significa identificarla.
Les identifier.
En los primeros meses, e incluso el primer año, 30-41, había muchas mujeres encarceladas arbitrariamente.
Dans les premiers mois et la première année, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été incarcérées de façon arbitraire en 40-41.
Sin ningún procedimiento jurídico legal.
Sans aucun processus juridique légal.
Entonces, es lógico pensar que en la mente de esta gente, las mujeres rojas embarazadas estaban contaminadas.
Donc il était clair pour ces gens que les femmes rouges enceintes étaient contaminées.
Esa expresión no me la he inventado yo. Es de Antonio Vallejo Nájera.
Je n'invente pas cette expression. C'est une expression du psychiatre militaire Vallejo Nájera.
Él consigue el permiso de Franco para poder actuar en plan experimental en las cárceles fundamentalmente de Málaga, que había sido
il obtient le droit auprès de Franco d'opérer dans les prisons de Málaga, de faire des expériences.
Aquellas ciudades que habían ofrecido mayor resistencia à l'avance franquiste.
Les villes qui avaient le plus résisté à l'avance franquiste.
Málaga y Sevilla.
Málaga y Sevilla.
En Andalucía. Él buscaba una cosa que se llamaba el gen rojo.
Donc lui cherchait quelque chose, il cherchait le gène rouge.
Presumía que el fenotipo.
Il pensait que qu'un phénotype,
el fenotipo, la apariencia física le daba la pista para buscar el genotipo.
Et il pensait que l'apparence physique donnerait la piste pour trouver le génotype.
Sí. De hecho, llegó a asegurar que las mujeres rojas eran
auténticos demonios comparados con los hombres, mucho más malos que los hombres.
Y en deduisait que les femmes étaient pires que les hommes, étaient des démons rouges.
De hecho, entonces se establece una vía abierta para arrebatar todos los niños nacidos en cautividad a esas mujeres presuntamente contaminadas.
Et à partir de ce moment-là, la voie était ouverte pour prendre tous les enfants à ces femmes qui étaient, selon lui, contaminées.
Pour illustrer ce que dit notre ami, je peux citer le docteur Antonio Valero qui disait « La relation intime existant entre le marxisme et l'infériorité mentale sont évidentes. La mise à l'écart des sujets dès l'enfance pourrait être affranchir la société de cette idéologie. Voilà, ainsi parlait sí. Le bon docteur Valero.
Presumen de que van a crear un hombre nuevo.
Parce qu'ils avaient l'idée de créer un homme nouveau.
Sí, el hombre nuevo. El hombre de la España nueva.
Donc l'homme de la nouvelle Espagne.
Ils n'étaient pas les seuls. Staline voulait faire la même chose. Hitler voulait faire la même chose. C'était la mode à l'époque, dans les années 30, de faire un homme nouveau.
C'est la race.
Mais c'est la race, la question de la race.
C'est le concept de race. En anthropologie, ya estaba en desuso.
Et qui était déjà plus d'actualité en sociologie.
Dans les années 20 et 30, la race ya no tiene sentido.
Donc dans les années 20 et 30, déjà, le concept de la race n'a plus de sens.
Ya se había descubierto que el genotipo y el fenotipo no coincidían.
On avait compris que le génotype et le phénotype ne coïncidaient pas.
Estaba todo tan difundido, tan mezclado, que no había sentido de
que tout était mélangé, on ne pouvait pas différencier.
Entonces, esto que empieza por ser una especie de limpieza étnica...
Alors, ce qui commence par être un nettoyage ethnique...
Con el tiempo, ya no tiene justificación... Y se aplica un nuevo baremo.
Perd sa justification avec le temps et un nouveau barème se met en place.
Qu'est-ce le concept de la caridad cristiana?
Qui est celui de la charité chrétienne?
Nosotros estamos obligados, hablo de nosotros, los católicos a rajatabla, estamos.
Alors, nous, les catholiques, comme on est purs,
estamos
pur jus.
Obligados a salvar estos niños que vienen a una familia desfavorecida para llevarlos a una familia.
On est obligé de sauver ces enfants qui sont nés dans des familles défavorisées et les donner à des familles chrétiennes qui vont leur offrir un meilleur futur.
C'est un acte de civilisation.
Esto es el concepto, ¿no?
C'est le concept, oui.
Por eso está tan implicada la Iglesia Católica en el tema de los niños robados en España.
C'est pour ça que l'Église catholique est aussi impliquée dans l'histoire des vols des enfants en Espagne.
Con su moral.
C'est en relation avec sa morale.
Si dentro entra en una clínica una mujer joven.
Donc si dans une clinique une femme jeune
soltera,
rentre célibataire
y aparentemente de clase baja o medio baja,
de clase sociale défavorisée ou moyenne,
esa mujer ya tiene una etiqueta.
Donc cette femme est automatiquement étiquetée.
¿Por qué? Porque si yo tengo una petición de un niño, los niños no se roban porque sí.
Parce que si moi j'ai déjà la demande pour un enfant, parce que les enfants n'étaient pas volés comme ça par plaisir.
Se roban bajo pedido.
Ils se volent parce qu'il y a une demande.
Hay alguien que quiere un niño.
Il y a un demandeur.
Cada demanda crea la oferta.
C'est la demande qui crée l'offre.
No se puede decir que el franquismo desapareciera le 20 de novembre de 75.
On ne peut pas dire que le franquisme a disparu le 20 novembre 1975, à la mort de Franco.
Me remito a lo que ha pasado con Garzón.
Pour preuve, ce qui est arrivé au juge Garzón.
Que ha sido una auténtica aberración jurídica. Y lo digo donde haga falta decirlo.
Parce que c'est une aberration juridique.
Le han acusado a Garzón, ha sido Falange Española.
Ceux qui ont accusé le juge Garzón, c'est la Falange Espagnole.
Es como si ahora se permitiese que las juventudes hitlerianas acusaran a un juez en Alemania.
C'est comme si aujourd'hui les jeunesses hitlériennes accusaient un juge en Allemagne aujourd'hui.
La guerre civile, c'est la foi. Pour ceux qui veillent sur l'Espagne éternelle. Pour ceux qui veillent sur l'empire de Charles Quint et du Christ roi. Pour les descendants des conquistadors. Pour ceux qui ont toujours besoin de croisades.
Franco dit, nous sommes catholiques. En Espagne, on est catholique ou on n'est rien.
Oui, mais quand même, 30 000 cas de bébés volés dans les années 40 et 50, ça passe pas inaperçu dans l'opinion. Les gens le savent.
Ahora, cuando yo he empezado a remover esto, la gente se ha escandalizado.
Vous êtes scandalisé?
Pienso que es una actitud hipócrita.
Je pense que c'est une attitude hypocrite.
Porque esto, digamos, en voz populi, la gente sabía que esto estaba ocurriendo.
Parce que les gens savaient, la vox populi savait ce qui se passait.
¿Por qué? Pues porque la gente, las mujeres sobre todo entre ellas, comentaban dónde tenían que ir para encontrar un niño.
Parce que les femmes pouvaient se dire entre elles et savaient où elles pouvaient trouver un enfant.
Por ejemplo, en la cola del pan, en los años 60, por ejemplo.
Par exemple, dans les années 60, en faisant la queue à la boulangerie pour acheter du pain.
Siempre había alguien cerca que le decía, no te preocupes, te vas a buscar a esta monja, a esta matrona o a este médico y seguro que si no es este mes el que viene, te buscan un niño.
Et alors, il y avait tout le temps quelqu'un pour lui dire si tu n'as qu'à aller voir cette bonne sœur ou cette sage-femme, cette infirmière ou ce docteur, et il te trouvera, si ce n'est pas ce mois-ci, le mois prochain, une solution.
Se han exportado niños fuera de España.
Donc on a exporté aussi des enfants à l'étranger.
Venezuela, México,
Venezuela, Mexique.
Et Estados Unidos.
Et aux États-Unis.
Et en el norte de España, en Vizcaya, han salido niños para Centro Europa.
Et au nord de l'Espagne, en Vizcaya, il y a des enfants qui sont partis pour le centre de l'Europe.
Esto era un mercado.
C'était un marché.
Garçon parle de 300 000 cas.
Hombre, me parece posible extrapolando las los en función de ese núcleo duro y la expansión de una práctica.
Moi je pense que c'est possible si on extrapole par rapport à ce qu'on sait déjà, ce noyau dur.
Nos ocupamos de todo.
Nous nous occupons de tout.
Era la frase que se empleaba sistemáticamente, nos ocupamos de todo.
C'était la phrase qui était utilisée systématiquement dans ces
cuando
cas-là.
Cuando se le decía a la madre que su niño había muerto.
Quand on disait à une mère que son enfant
y
était mort.
La madre decía, quiero ver a mi hijo para enterrarle yo.
Et la femme disait, je veux voir mon enfant pour l'enterrer moi-même.
Sistemáticamente.
Systématiquement.
Se le decía siempre, nos ocupamos de todo.
On lui disait, nous nous occupons de tout.
Las tierras, las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Corazón suena, resuena, resuena las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
C'était Les Enfants Volés d'Espagne, une nouvelle diffusion d'un reportage d'Antoine Chao et Daniel Mermet des 16 et 17 avril 2012. À voir sur le sujet Une vie volée, un documentaire de Laurence Jourdan produit par Amip Productions. Et à lire Les Enfants perdus du franquisme, un livre de Ricard Vignès, Montse Armengou et Ricard Bellis paru chez Aden Édition. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Émission, là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Anne-Laure Cochet et Elisabeth Collet. Une émission réalisée par Jérôme Chélius, Franck Adhérer et Bertrand Chometon et préparée avec Jonathan Duong et Marina Touyez. Stéphanie Fromentin, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Eric, moi, Eric Ripula, je suis le secrétaire du CE au niveau des Ardoisiens.
Voilà.
Et alors, il y a marqué non à la fermeture des ardoisières.
Voilà.
Et vous voyez qu'on va dire, là, pratiquement, on va dire, sur le personnel, il y a plus de 90% du personnel qui est présent aujourd'hui. Donc c'est très important pour que le groupe prenne en compte tout ça. On a ramené 1350 pétitions, 13 800 pétitions signées de la population et du bassin en juin pour qu'ils disent, qu'ils sont comme nous, qu'ils disent non à cette fermeture.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'Esplanade des Invalides en compagnie des ardoisiers de Trélazé, près d'Angers. Alors, monsieur, vous avez un pin's avec marqué mineur de l'Ouest.
Oui.
Vous êtes mineur ?
Mineur ardoisier.
Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier ?
Qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est de voir sa mine fermée alors qu'on sait que les conditions sont réunies pour la poursuite de l'activité. Ça nous est intolérable. Et c'est quelque chose qu'on va vraiment mettre toutes nos tripes pour démontrer qu'il y a de la matière première et que cette mine doit continuer.
Mais est-ce que... votre patron, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut fermer la mine ou il veut la revendre ?
Notre patron, ce qu'il veut, c'est arrêter de mettre de l'argent dans notre activité pour la mettre dans des activités qu'il juge plus lucratives, pour gagner plus d'argent, toujours plus, toujours à plus court terme, pour redistribuer tout simplement aux actionnaires.
Est-ce qu'on pourrait penser que votre patron, il dit, bah, écoutez, si vous voulez vous occuper de la mine, moi je vous laisse la mine, je mets plus d'argent dedans, mais vous me dites que vous pouvez faire vivre cette mine et qu'elle est rentable, faites-le. Est-ce que ça c'est possible, c'est envisageable ?
La question, elle est sur la table, puisque dans le cadre de la procédure, l'entreprise doit lancer une procédure de reprise de l'activité et actuellement, elle est en train de contacter un certain nombre d'éventuels repreneurs. Non, mais nous, c'est déjà prévu qu'on se retrouve demain, puisque la rencontre au groupe aujourd'hui s'inscrit. C'est une initiative dans notre processus d'action. En aucun cas, c'est une fin en soi. Le groupe n'a pas voulu venir dans notre entreprise pour qu'on lui expose notre analyse, nos arguments et nos propositions. Donc on a fait le choix avec les salariés d'aller sur leur terrain. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Mais demain sera un autre jour. Il y a déjà des actions qui sont prévues pour vendredi, qui sont prévues pour mercredi prochain, qui sont prévues pour samedi prochain. Et il y a tout un calendrier d'actions qui est élaboré.
Quand est-ce que vous êtes allé pour la dernière fois dans la mine ?
Le 24 novembre dernier.
Ah oui ? Ça fait déjà un petit moment que le conflit existe.
Oui, mais comme je vous disais, du moment que les visites réglementaires de sécurité sont réalisées une à deux fois par semaine, l'outil de travail est entretenu, l'exor est assuré, les visites des installations sont régulièrement faites. À partir de là, la mine peut repartir dès l'instant que le feu vert sera donné.
On gagne combien quand on est mineur ?
Beaucoup d'argent, on est très riche.
C'est ça. Je vois bien à votre tenue que vous avez... Un blouson orange avec les bandes fluo qu'on peut voir sur les ouvriers.
C'est cette tenue-là, c'est la tenue obligatoire pour travailler dans un milieu où il y a des engins et dangereux. Donc c'est pour les bandes fluo, c'est obligatoire.
Oui, alors vous pourrez répondre à ma question ?
À laquelle ?
Combien on gagne quand on est mineur ?
Je vous dis, énormément d'argent. C'est pour ça qu'on veut continuer à être mineur. Mais ce qu'on gagne surtout, c'est l'estime d'être connu, d'avoir la fierté de couvrir les bâtiments, les monuments historiques de la France, de couvrir le marché public français et de pouvoir répondre à la demande des personnes qui ont les moyens de vouloir une toiture en ardoise de qualité. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Et c'est ça le prix de notre fierté.
Si vous voulez voir, il y a des ardoises qui sont exposées. Vous pouvez aller jeter un œil sur les différences de matière, de qualité.
Démontrer.
Alors, allons-y.
Mais vous n'avez pas répondu à la question. Hein. Beaucoup d'argent, c'est pas un chiffre. Hein. Moi, je suis un journaliste, il me faut des chiffres. Et vous croyez que vous allez tenir comme ça ? Mais dites-moi, c'est pas un secret.
C'est comme dans toutes les entreprises, il y a une échelle de salaire. Et puis après, chacun...
Quand on est mineur, on démarre à combien et on finit à combien ?
On arrête d'être mineur à 18 ans.
C'est une bonne réponse.
Vous voulez parler à un jeune mineur ?
Oui, je veux bien. Quel est votre prénom ?
Loni.
Loni,
ça s'écrit comment ? L-O-2-N-I.
Et alors, ça fait combien de temps que vous êtes mineur ?
Ça fait 8 ans.
Et vous avez quel âge ?
J'ai 28 ans.
Et quel est le salaire d'un mineur au départ ?
Un mineur de départ ? Moi, j'ai commencé 582 points, ça faisait 1200 euros par mois.
Mais vous pouvez me dire combien vous gagnez, vous, après 28 ans de mine ?
28 ans de mine, je dois être, on va dire, environ entre 1600 et 1700 euros. Oui. Ce qui n'est pas, on va dire, extraordinaire, ramené à 30 ans. Et je veux dire, je suis, pour pas dire, mais je suis à peu près dans les, pas dans les hauts salaires, mais je suis dans la base haute.
Dans la,
Je suis dans la base haute des salaires moyens.
Bon, écoutez, je vous souhaite que... Alors, c'est drôle, je vous souhaite de pouvoir retourner à la mine.
C'est vrai, c'est le choix, c'est vraiment un souhait de, on va dire, de tout le monde, de tous les gens qui vraiment y travaillent et qui tiennent à cœur leur métier. On voudrait bien que le redressement productif et puis que le ministère de la Culture vraiment s'occupe vraiment de notre cas. Ça, c'est vraiment important et qu'ils répondent à nos courriers.
Voilà. Le ministère de la Culture, parce que vous...
On dépend du ministère de la Culture pour les monuments historiques.
Oui, les ardoises, elles vont au château de Versailles.
C'est eux qui donnent les ordres, ce sont eux les donneurs d'ordre. Et on aimerait bien qu'à la limite, ça soit vraiment eux qui nous donnent une réponse au courrier qu'on leur a fait.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Elle est bizarre ta jambe, elle est toute bleue.
Oh mais quel boulet, c'est un plâtre.
Tu t'es fait ça comment?
C'est un accident de la vie, j'ai glissé dans ma cuisine.
Tu t'en sors bien?
Oui, j'ai la Matmut qui assure les accidents de la vie courante.
Selon conditions définies au contrat d'assurance multirisque, accident de la vie.
Quelle belle bleue.
Oh maintenant ça suffit.
Oh la belle bleue.
Welcome to the Dallas Buyers Club.
France Inter présente Dallas Buyers Club, un film de Jean-Marc Vallée, 6 nominations aux Oscars, dont meilleur film, avec Matthew McConaughey et Jared Leto, primé au Golden Globe, au cinéma le 29 janvier. 1986, à Dallas, Ron, un cow-boy texan macho et homophobe, est diagnostiqué séropositif. Il a recours à des traitements non officiels, rassemble d'autres malades. Le Dallas Buyers Club est né. Son combat va le transformer. Retrouvez Dallas Buyers Club dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
À suivre, Frédéric Lodéon, excellent après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Dominique Delarroy.
Rachel, l'épouse de Vincent Lambert, fait appel devant le Conseil d'État contre la décision de la justice administrative qui interdit l'arrêt du maintien en vie artificielle de son mari. Le laisser partir est un geste d'amour, a-t-elle réaffirmé. Vincent Lambert, 38 ans, est tétraplégique et en état de conscience minimale, sans espoir de récupération depuis un accident de la route. Il est hospitalisé depuis 5 ans. Son épouse avait donné son accord à l'arrêt des soins, mais les parents des catholiques traditionnalistes ont saisi la justice pour s'y opposer. 5 ans d'emprisonnement requis à l'encontre d'un homme de 51 ans, jugé aux assises de Seine-Saint-Denis. Il est accusé d'avoir transmis sciemment le virus du sida à sa compagne qui ignorait sa maladie. L'accusé encourt jusqu'à 15 ans de réclusion. Le Conseil supérieur de la magistrature considère qu'il n'y a pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de l'ancien procureur de Nanterre, Philippe Courroy. Le magistrat et son adjointe sont soupçonnés d'avoir tenté en 2010 de découvrir illégalement les sources de 2 journalistes du Monde qui travaillaient sur l'affaire Bettencourt. C'est l'affaire dite des fadettes. Pour autant, le CSM s'est montré très critique envers l'action du magistrat. Le CSM a transmis son avis à la chancellerie. La décision appartient à la ministre de la Justice. Valérie Trier-Veller poursuit son voyage humanitaire en Inde. En visite dans un bidonville de Bombay, l'ancienne première dame de France a assuré qu'elle ne ferait plus de journalisme politique et qu'elle souhaitait approfondir ses engagements humanitaires, particulièrement en direction des enfants démunis. Elle s'est déclarée heureuse à Bombay, où elle serait volontiers restée. La journaliste chroniqueuse à Paris Match doit prendre un vol pour Paris dans la soirée. Ça bouge en Ukraine. Le président Yanukovych a accepté la démission de son premier ministre et de son gouvernement. Mykola Azarov a expliqué sa décision par les menaces que fait peser la contestation sur l'économie du pays. Le gouvernement actuel continue cependant de travailler en attendant la formation d'une nouvelle équipe. Par ailleurs, le Parlement est réuni en session extraordinaire depuis ce matin à propos donc de cette crise politique qui secoue le pays. Près de 45 000 migrants ont risqué leur vie en Méditerranée pour rejoindre les côtes italiennes et maltaises. C'est le bilan publié à Genève par l'Organisation internationale des migrations. Ce nombre est le plus élevé depuis 2008, si l'on exclut 2011, celle de la crise libyenne, relève l'organisation. Au cours des 20 dernières années, ce sont quelque 20 000 personnes qui ont perdu la vie en tentant de rejoindre les côtes italiennes. La décrue est générale dans le sud-ouest, sauf dans les Landes, où elle se fait attendre. Le département est toujours en vigilance orange crue en raison des dernières précipitations qui maintiennent ou qui ont fait monter les niveaux de certains cours d'eau. Dax et Mont-de-Marsan connaissent notamment d'importants pics de crue et ça ne va pas s'arranger car Météo France annonce de nouvelles pluies.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Me Do au Studio 105, Bill Callahan et sa voix de crooner country inondée de blues.
Well, the only words I've said today are beer.
Cascadeur, humain après tout. Et une invitation dans le royaume du prince Miaou.
Live Me Do.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
16h04, c'est l'heure du Carrefour de l'Odéon. Avec vous Frédéric, bonjour.
Bonjour Dominique Delaroy, on vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, nous allons évoquer la folle journée de Nantes, bien sûr la musique américaine en général, le magazine tout à fait passionnant Diapason qui est notre partenaire, et la musique américaine bien sûr c'est Gershwin, c'est Bernstein, c'est Philip Glass, c'est Barber et tant d'autres. Donc dans Diapason, il y a vraiment un texte très développé qui parle de presque tous ces compositeurs, John Cage et j'en passe, c'est les meilleurs, et je vous recommande vraiment la lecture de ce magazine. On va commencer tout de suite avec un bel orchestre sous la direction d'un grand maître. Leonard Bernstein a écrit l'ouverture de Wonderful Town, donc la merveilleuse ville. On entend que la musique symphonique se mêle au jazz. C'est ça l'Amérique, c'est un grand melting pot. Ouverture de Wonderful Town, la ville magnifique. L'auteur, c'est Leonard Bernstein, fameux compositeur et chef d'orchestre. Le chef qui dirigeait là, c'était un autre fameux chef d'orchestre tout court, mais enfin, il a beaucoup de talent, Sir Simon Rattle, avec le groupe de musique contemporaine de Birmingham. Donc, ce sont les couleurs de l'Amérique qui irriguent le journal Diapason, le magazine que nous allons feuilleter, et puis aussi, évidemment, la folle journée de Nantes. Le rendez-vous, je le rappelle, pour les Nantais et ceux qui peuvent accéder à cette manifestation à la Cité des Congrès. Jeudi, nous serons au kiosque. On espère que vous serez très nombreux autour de ce kiosque dans le Grand Hall avec Shani Di Luca, Henri de Marquette, donc pianiste, violoncelliste, Isabelle Georges, chanteuse de jazz, Raphaël Sévère, fameux jeune clarinettiste. Et puis vendredi, je serai pour France Musique à 17h au même endroit. Et il y a aussi de très beaux